être habité par quelque chose que parfois on ne considère pas à la juste valeur. On va lire ensemble dans le livre de Ésaïe au chapitre 53, versets 1 et 2. Ésaïe 53, versets 1 et 2 dira « Qui a cru à ce que nous était annoncé ? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. » En lisant ce texte, je me disais, Seigneur, en effet, si le prophète Ésaïe nous avait parlé de la beauté des cèdres du Liban, c'est autre chose. Quand vous regardez, si vous faites un peu une recherche sur Internet, ce qu'est un cèdre du Liban, c'est un arbre magnifique, majestueux. On aimerait avoir des arbres comme ça, ils donnent de l'ombrage et on les voit depuis loin. Et la parole de Dieu, il nous parle de Jésus comme une simple racine qui sort d'un terrain qui n'est même pas fertile et qui, en effet, n'a aucune beauté pour attirer les regards. En effet, Ésaïe nous invite à non pas à nous arrêter aux apparences, mais à creuser en profondeur dans la personne de Jésus-Christ. Nous avons tous tendance à laisser nos yeux être attirés par ce que le monde considère beau, par ce que le monde considère important, par ce que le monde considère finalement prioritaire. Et on oublie que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ quelque chose de merveilleux, qui est au plus profond de nous et qui ne demande que à être finalement découvert et reconnu au juste titre. Celui qui vient habiter le cœur de celui qui se donne à Dieu, c'est Jésus. Et il est important pour nous de ne pas nous arrêter à une image qui est celle peut-être liée à l'histoire ou à la religion, d'un objet de piété, d'un tableau, où en effet ça ne donne pas forcément envie. C'est certes que si nous regardons l'image de Jésus à la croix, les clous, les épines, le sang qui coule, ça ne donne pas envie. On se dirait, mais quelle image terrible! Mais en réalité, dans cette image, la parole de Dieu, il nous éclaire sur ce que nous sommes. L'homme sans Dieu, il n'est pas beau. L'homme sans Dieu n'est que peine, que douleur, que souffrance. Finalement, qu'une image de mort. L'homme sans Dieu, c'est ça. Le cœur sans Jésus-Christ, c'est un cœur qui est mort. Il n'y a rien de beau qui puisse habiter à l'intérieur. Peut-être qu'à l'extérieur, il y a une image, il y a une enveloppe. Mais à l'intérieur, bien des fois, c'est ravagé, c'est mort. Il y a une tristesse, il y a une peine. Jésus est venu et la parole de Dieu, il nous dit, il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Mais comment est-il possible que celui qui a créé le ciel et la terre, avec tout ce qu'il contient, rempli d'une beauté et d'un éclat tel que nous le connaissons, pourquoi n'a pas donné à Jésus une apparence plus belle ? Parfois, soyons clairs, quand on se regarde au miroir, on se dit, ben quand même, c'est injuste. Hein ? Peut-être que dans notre famille, on a des personnes qui ont un style, un caractère, une image différente, et nous, on se sent un peu comme le petit vilain canard. N'est-ce pas ? Et on se dit, Seigneur, mais finalement, toi qui savais que j'allais être à toi, t'aurais pu faire quelque chose de mieux chez moi. Regarde les autres, ils ne sont pas chrétiens, regarde-les. Ils sont beaux comme tout, et moi, j'ai tous les défauts. Hein, et on cherche les défauts au lieu de chercher en réalité la véritable beauté qui est celle qui doit habiter notre cœur. Et finalement, si on regarde à cela, tout le reste n'a plus d'importance. Parce que finalement, nous tenons ce qui est le plus important, ce qui est le plus glorieux. Jésus n'est pas venu pour être une star. Il n'est pas venu pour promouvoir finalement une image, son image. Il espérait encore moins des applaudissements des foules. Et pourtant, ils auraient pu. Hein. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit qu'un jour, ils l'ont reçu avec des acclamations, ils ont étendu sur le chemin leur manteau. Hein. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Et le jour d'après, crucifie-le. Comme quoi, on peut vite passer de la gloire à la peine. On peut vite passer aux yeux du monde de quelque chose qui peut attirer le regard à quelque chose que finalement nous rejetons. Non pas l'homme, mais l'image de Jésus cloué à la croix, couvert de sang, tuméfié, de coups, reçu, nous permet de nous voir comme dans un miroir. Nous, pécheurs, capables des pires choses. On pourrait se dire, mais moi, je n'ai jamais fait une chose pareille à quelqu'un. Combien de fois avec nos mots, on a mis des clous? Combien de fois avec nos pensées, on a pu fustiger les uns les autres? Combien de fois nous avons, par nos attitudes, par nos comportements, rejeté le Seigneur? Nous n'avons pas fait mieux que les autres qu'ils ont dit, crucifie-le, hein, finalement. Finalement, quelque part, le Seigneur peut-être nous a même dérangé dans notre vie parce que ce qu'il disait éclairait ce que nous sommes, pécheurs. La parole de Dieu, par beaucoup, n'est pas aimée parce qu'elle met le doigt là où ça fait mal. Ou finalement, ça nous montre que nous ne sommes pas si beaux que ça, nous ne sommes pas si bien que ça. Et Jésus à la croix, c'était une tentative finalement de dire comme ça, il n'y aura plus possibilité de faire une confrontation. Jésus n'est plus là, mais le modèle c'est nous. Mais Jésus n'était pas venu pour rester à la croix. Il était venu pour remonter au ciel auprès du Père, être le modèle par excellence pour l'éternité. Sa parole, son message, ils sont encore là aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous invite à découvrir la beauté de l'amour du Seigneur. À ne pas nous arrêter sur l'image, mais finalement au sentiment, au cœur de Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, les versets 14 à 16, il nous est parlé de ce texte où Moïse, de ce moment de l'histoire, où Moïse fut obligé d'élever un serpent d'airain dans le désert pour le salut des vies de ces hommes qui avaient quitté l'Égypte, qui avaient quitté finalement l'esclavage, mais qui au fond de leur même étaient restés esclaves de leur passion, de leur péché. Finalement, ils avaient connu une liberté, mais extérieure, à l'intérieur, il y avait encore malheureusement des détritus qui faisaient de leur cœur pas un lieu accueillant. Et la parole de Dieu nous dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Souvent on cite Jean 3,16, mais on oublie ce qu'il y a avant. Ce moment où Jésus a été élevé, et en réfléchissant bien, je ne pense pas que Moïse, compte tenu de la situation dans le désert où le peuple s'était montré rebelle à Dieu, et que finalement ils étaient condamnés par leur attitude, leur comportement, il y avait des conséquences, et encore aujourd'hui pour nous il y a des conséquences quand on n'obéit pas au Seigneur. Quand on rejette Dieu, quand on rejette sa volonté, quand on n'est pas d'accord de nous soumettre à sa volonté. Je disais cet après-midi en formation baptême, quand on parle de la soumission, on regarde ça comme quelque chose d'horrible, de terrible, de méprisant. La soumission comme quelque chose qui piétine le droit, la volonté, la personne. Mais quand la parole de Dieu nous parle de soumission, en réalité, il nous dit de nous mettre sous le couvert, sous la protection, sous la grâce, sous l'amour. Et parfois, on pourrait dire, ah, mais c'est ça, la soumission. Mais en réalité, c'est ça, la soumission. Par contre, tout dépend à qui on se soumet. Si on se soumet à Dieu, oui, certes, c'est ça. Mais si on se soumet à Satan, ça n'a rien à voir. C'est tout le contraire. Finalement, la parole de Dieu nous parle de ce travail où Moïse sera obligé dans le désert d'élever un serpent d'airain. Je ne crois pas qu'il ait pris le temps de faire quelque chose de très défini, très beau à voir. Parce que le but n'était pas de faire quelque chose beau à voir, mais quelque chose qui finalement, par le regard, pouvait finalement sauver des âmes. Ce que Dieu voulait, c'était pas que son fils soit beau à voir, mais qu'il puisse sauver notre âme et qu'on puisse découvrir dans la personne de Jésus-Christ non pas un objet d'idolâtrie, mais celui à adorer. Celui qui devait prendre toute la place dans notre cœur, dans notre vie, car Dieu, oui, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'évangile de Jean nous rappelle du temps où le peuple paya par sa propre rébellion. On lit un texte dans le livre des Nombres, chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Il nous dit « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer de Jonc pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avait fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit « Nous avons péché ». Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, place-le sous une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Amen. Mais au préalable, ce qui amenait toute cette situation était la rébellion des hommes. Ils en avaient contre Dieu. Ils en avaient contre Moïse. On cherche souvent des boucs émissaires. Ah, le pain, il n'est pas bon. L'eau, elle n'est pas fraîche. Et ça, ça ne va pas. Et ça, ça ne va pas. Ça nous arrive, non? Il semblerait que sur le podium des râleurs, la France détient un prime. Mais je me suis rendu compte que tous les peuples tiennent le même discours. Les plus râleurs, c'est nous. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui devrait nous rendre orgueilleux et heureux, ou finalement quelque chose qui devrait nous dire, autant que chrétien, je devrais ne plus agir ainsi. Ce peuple qui avait finalement quitté après 400 ans d'esclavage et qui recevait le pain qui vient du ciel, la manne, il parle d'un pain méprisable. Combien nous pouvons être méprisants vis-à-vis de ce que Dieu nous offre? Il ne devait pas passer chez le boulanger payé le matin, non? Il récoltait ce qu'il n'avait pas semé, il récoltait ce qu'il n'avait pas travaillé, il récoltait ce que Dieu leur donnait. Et encore aujourd'hui, Dieu veut nous faire recevoir ce que nous ne méritons pas. Jésus, le pain de vie, le pain venu du ciel. Et combien encore aujourd'hui, malheureusement, font la même erreur en méprisant, en rejetant et en disant « mais je n'ai pas besoin de cela, sauf que le rejet de Dieu ouvre la porte à d'autres choses. Et dans le cas présent, c'était des serpents brûlants. Je dis à Boker que le serpent, ce n'est pas l'animal qui m'attire le plus. Personnellement, chacun ses goûts, chacun ses parfums. Il y a des serpents qui peuvent être intéressants, tout dépend de la forme. Chaussures, ceinture, sac, balise. Mais les défenseurs de la nature ne seront pas d'accord avec moi et je peux comprendre. Heureusement qu'il y a des produits aujourd'hui qui peuvent ressembler à, mais qui ne sont pas. Mais néanmoins, si on imaginait la scène de se retrouver face à des serpents qui vous mordent et qui finalement peuvent vous faire mourir, je ne crois pas qu'on serait là toute attention en disant « Attends, il ne faut pas piétiner parce que tu sais, voilà ». On essaierait de fuir, on essaierait d'éliminer ce qui pourrait finalement nous réduire à la mort. Il y a des choses qui peuvent nous réduire à la mort, il y a des choses qui peuvent nous réduire à l'esclavage. Et pourtant, au lieu de les fuir, parfois on les accompagne, on les caresse, on les chouaille parce qu'on se dit, c'est des choses qu'on aime bien. Ça devient des passions. mais qui finalement il nous arrive de nous amener à la mort. Et là, Dieu agit parce que finalement, celui qui était la cible aussi du peuple priera. Je voudrais vous dire que si aujourd'hui, une occasion de salut vous est donnée, nous est donnée, c'est parce que Jésus prie pour nous. Il est bien plus que Moïse. Si encore aujourd'hui Dieu n'a pas balayé d'un revers de la main la terre entière, c'est parce que Christ dit « Père, patiente. Père, j'ai payé le prix. Mais tu vois telle personne, Père, laisse-lui le temps de réaliser. Laisse-lui le temps finalement de comprendre. Laisse-lui le temps finalement de contempler le Fils de gloire. Le Seigneur voudrait que nous puissions contempler non pas la beauté, mais son amour. Que nous ne soyons pas attirés par quelque chose d'éphémère, mais par quelque chose qui est éternel. La grâce de Dieu, la paix de Dieu. Quand Dieu donne, il donne. Il ne nous donne pas quelque chose pour nous le retirer. Nous, parfois, on donne à Dieu notre confiance et on la retire aussi vite parce qu'on a l'impression qu'il n'en fait pas assez, qu'il devrait faire plus, qu'il devrait faire mieux, qu'il devrait faire comme on lui dit. Mais Dieu n'est pas à nos ordres. Et quand on parle de Dieu, on devrait avoir un respect et une révérence bien différentes. La parole de Dieu nous parle d'avoir de la crainte, la sainte crainte de Dieu, qui n'a rien à voir avec la peur. Et bien évidemment, c'est le respect qui est dû à Dieu. Imaginez-vous un jour de vous trouver devant un juge qui doit juger une situation qui vous concerne. Je ne crois pas que vous arrivez en lui disant, en lui manquant de respect, parce que vous dites, si je le fais, les carottes sont cuites. Non ? Et là, même si on ne sait pas comment faire, on trouve tous les mots. Monsieur, votre excellence. Puis-je vous appeler messire ? Monsieur le juge ? Monsieur le président ? Je vous prie de m'excuser pour toutes les bêtises que j'ai faites. On trouverait tous les mots, on trouverait même les conditions, on ferait même sortir la petite larme, histoire d'être un peu plus crédible. Et si on arrivait en disant « Tu n'es pas à ta place, ce que tu dis ne m'intéresse pas. » T'intéresse pas ? Tu verras, ça va t'intéresser vite fait. « Je ne suis pas lié aux droits des hommes. » Ah bon ? Ben, tu vas sortir avec les menottes des hommes. Parce qu'il y a des conséquences à nos actes. Et nous, parfois, on considère qu'on peut dire à Dieu des choses jamais devrait sortir, ni de notre bouche, et que jamais devrait être dans notre cœur. Je disais tout à l'heure que le serpent fait par Moïse certainement n'était pas une pièce qui devait attirer le regard des experts d'art. Ésaïe 53, versets 4 et 5, il nous dira « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » S'il nous parle de salut, la parole de Dieu, il nous parle aussi de guérison. Alors la question est pour nous, de quoi avons-nous besoin d'être guéris ? Il y a la guérison physique, mais il y a aussi la guérison morale, il y a la guérison de notre âme. Il y a cette guérison qu'on a besoin, qu'elle agisse aussi à l'intérieur, pour que finalement tout le reste n'est plus autant d'emprise dans notre vie. Il y a quelque temps, mes enfants se sont amusés à vérifier si leur père avait encore tous ses cheveux sur la tête. Et à tour de rôle, ils venaient vérifier pour dire « Papa, tu vieillis. » Et je leur ai rappelé que ce qu'ils sont, je l'ai été, mais ce que je suis, ils le seront. Et après, c'est moi qui va compter la quantité de cheveux qui leur reste sur la tête. Finalement, si on s'attachait à ça, on sait qu'aujourd'hui, les hommes, l'être humain, cherchent la manière de ne pas vieillir. Des pommades, des piqûres, de la chirurgie, de ceci, parce qu'on veut être lisse. On voudrait ressembler toujours à un gamin de 19 ans et demi, pas plus quand même. Parce qu'après, ça fait vieux. Aujourd'hui, finalement, l'âge peut nous mettre en souffrance. Dernièrement, j'entendais au journal qu'après 45 ans, on est considéré senior. Je dis Seigneur, qu'est-ce qu'ils disent ? Finalement, la jeunesse n'est pas celle qui doit être à l'extérieur. La beauté ne doit pas être celle qui est à l'extérieur, c'est celle qui est à l'intérieur. Est-ce que notre cœur, est-ce qu'il est beau parce qu'il est habité par Jésus-Christ ? Parce que finalement, si on considère notre vie ici-bas, qui est d'une durée quand même courte par rapport à l'éternité, moi je préfère être beau pour l'éternité, n'est-ce pas ? Et finalement, qu'est-ce qu'est la beauté ? Qu'est-ce que ça veut dire être beau ? C'est pas quelque chose qui finalement pourrait parfois nous amener ou nous entraîner à notre perte. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit être moche, excusez-moi ça. Hein. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas ce que je dis. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne vous dites pas demain matin, le pasteur il nous a dit, on est tous moches, c'est pour ça qu'on est sauvés. Non, c'est parce que Dieu a regardé davantage à votre cœur. Il ne s'est pas intéressé à vouloir voir qu'il n'y ait que des belles personnes. Il n'a pas choisi un peuple, il n'a pas choisi une nation seulement. Il a voulu que tous les hommes soient sauvés. Il n'a pas cherché un type de personne. Certains ont considéré qu'il y avait une seule race qui devait fonctionner, vivre. Mais Dieu a voulu tous les peuples. Et qui que nous soyons, Dieu nous aime. Alors nous ne regardons pas aux autres comme s'ils avaient quelque chose en plus de nous. Mais ayant quelque chose en plus en nous, Jésus-Christ, de quelle beauté voulez-vous être porteur ? Certes, ça nous intéresse d'avoir une bonne image extérieure, ce que les autres vont voir et juger. Et nous préférons recevoir des compliments et entendre des éloges plus que des reproches, voire même des choses qui pourraient nous faire mal. Et si, à la fin, on était plus attentif au regard des hommes qu'à celui de Dieu ? L'apôtre Paul nous invite à ouvrir les yeux. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4, dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. La parole de Dieu et l'apôtre Paul dira que nous sommes un livre, une lettre. Que voulons-nous qu'il y ait écrit dans notre cœur ? Quel est le texte que vous aimez le plus dans la parole de Dieu ? Tous ? Et alors que le Seigneur fasse que nous soyons habités par cette belle parole de Dieu, cette sainte parole. Mais on ne peut pas demander à la parole de Dieu d'habiter notre cœur et après l'extérieur vivre autre chose. Il faut que nous soyons le reflet de cette parole. Et si l'on faisait comme Christ, choisissant de laisser la véritable beauté habiter notre cœur, et si nous arrêtions de vivre pour l'apparence, n'ayons pas peur pour nous-mêmes, mais abandonnons notre être entre les mains de Dieu pour qu'il révèle davantage la beauté qui est en Christ et dont nous sommes devenus héritiers. Vivre en nous-mêmes une véritable métamorphose, laisser la laideur du péché pour recevoir la beauté de Christ. Je ne sais pas si ça vous parle cela, mais moi je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que ça serait merveilleux qu'un jour ou un soir de réunion, nous puissions revivre ce qui a été vécu sur la montagne de la Transfiguration. Finalement, vivre un moment si glorieux, si important. Vous vous rappelez, l'apôtre Pierre, il est là, il est confus. Et en effet, il pense à l'extérieur, il se dit, est-ce qu'on peut monter des tentes, on va faire quelque chose. Heureusement qu'on est là. Et la parole de Dieu nous dit qu'une nuée était venue couvrir Jésus ainsi que ses invités. Chose incroyable, Pierre et les autres disciples vont reconnaître les invités de Jésus. Qui était là? Dites-moi. Moïse, vous étiez présent? Vous l'avez lu? Ah, ça me rassure. Parce qu'autrement, je vous dirais que vous portez bien votre âge. Il y avait présent Moïse et Élie. Deux hommes qui ont vécu quand même des choses incroyables. Moïse vivra ce moment sur la montagne avec Dieu et quand il descendra, il sera tellement rayonnant que le peuple ne supportait pas de regarder son visage. Merveilleux, non? Et Élie, finalement, qui n'a pas connu la mort parce que dit la parole de Dieu que Dieu envoya un char et qu'il a repris, il est parti dans le ciel. Il a arrêté de vieillir. Et ils sont là tous les deux avec Jésus. Et c'est ce moment particulier où, en effet, Jésus s'entretient avec eux. On pourrait dire, mais quel entretien? Est-il possible? Pourquoi Jésus a besoin de voir Moïse? Pourquoi Jésus a besoin de voir Élie? Parce que finalement, les deux représentent quelque chose de particulier dans la parole de Dieu. Moïse représente la loi. Élie, la prophétie. Et Jésus, l'accomplissement des deux. Finalement, le Seigneur voudrait que nous soyons l'accomplissement de son œuvre dans notre vie. Le Seigneur voudrait accomplir des choses dans notre cœur, mais il faut qu'on lui dise, Seigneur, viens et réside en moi. Prends toute la place, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Transforme-moi. Et je peux vous dire que quand Dieu transforme l'intérieur, ça se voit aussi à l'extérieur. Peut-être on ne s'aperçoit pas toujours, mais j'ai le plaisir, j'ai le bonheur de voir des personnes arriver à l'église et avec le temps voir comment le Seigneur change leur visage, leur redonne à nouveau d'être rayonnant, de retrouver la joie, de retrouver le bonheur. Alors je ne dis pas que c'est toujours facile, mais Dieu est à l'œuvre. On ne s'aperçoit pas tout de suite de ce que Dieu peut changer dans notre vie, mais finalement, quand le temps passe, on se dit, mais il y a des trucs qui ont changé. Je ne parle plus comme avant, je ne suis plus comme avant, je n'ai plus peur comme avant. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de changer ton cœur et ta vie. Le texte lui dit, il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Ésaïe 11, 10 dira, et retenons cela, alors en ce jour, la racine d'Isaïe, qui se dressera comme une bannière pour le peuple, sera recherchée par les nations et son emplacement sera glorieux. Est-ce qu'on veut que la racine de Christ soit en nous? Mes gamins m'ont offert des semences de bonsaï. Alors, en lisant les instructions, je me suis rendu compte qu'en effet, c'est eux qui vont en profiter. Parce que le temps que ça pousse, ça va prendre du temps. Mais j'ai joué le jeu. Et donc, j'ai pris le temps de faire ce qu'il fallait. Et donc, il y a une manière de faire. Vous devez prendre les petites graines, vous devez les mettre dans l'eau, les laisser 48 heures pour que l'eau, finalement, vienne et commence à ouvrir la coquille extérieure. Et après, il faut imprégner la terre, la préparer, installer tout ça, mettre tout comme il faut et laisser du temps. Il y a des choses que Dieu veut faire dans notre vie, mais on doit être prêt à dire, Seigneur, je te laisse carte blanche. Seigneur, tu vas semer quelque chose dans ma vie, mais je dois accepter aussi que cette semence, elle dit la parole de Dieu, il faut qu'elle meure pour qu'elle porte du fruit. Jésus, il est mort pour qu'il y ait du fruit dans notre vie. Encore une fois, c'est lui qui a pris cette responsabilité. Et nous avons lu, il se dressera comme une bannière pour le peuple. Que le Seigneur soit celui qui nous dirige. Que le Seigneur soit celui qui finalement nous rassemble. Sa présence sera recherchée et son emplacement sera glorieux. Quelle est la place du Seigneur? Dites-moi, il est où le Seigneur? Et vous savez ce qu'il a dit au Seigneur avant de partir, à son Dieu, à son Père? Père, je veux que là où je suis, il soit avec moi. Amen. Merci Seigneur, tu nous veux avec toi. La beauté extérieure n'est que de courte durée et Dieu nous offre l'éternité. 1 Pierre chapitre 1 verset 3-5, il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ne s'y corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui vous est réservé dans les cieux à vous, qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. » Dieu nous offre de ne pas connaître finalement quelque chose que le monde aimerait. Regardez bien le texte. Il nous offre un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. On sera tous beaux devant le Seigneur. Il n'y aura pas de rides. Déridez-vous. Laissons le Seigneur changer notre vie. Laissons le Seigneur transformer notre vie. Et acceptons que finalement, cette beauté que Dieu veut, elle sera révélée au moment opportun. Quand on sera avec Christ. Parce que nous serons semblables à lui. Amen. Béni soit Dieu. Si avant on ne voyait qu'une petite racine, n'oubliez pas sa nature, sa personne, qui seront bientôt visibles et bien plus merveilleux que tous les cèdres du Liban. Dernière référence. Romains, chapitre 15. Isaïe dit aussi, il paraîtra le rejetant d'Isaïe, celui qui se lèvera pour commander aux nations. Les nations espéreront lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un ce soir voudrait abonder de cette paix, de cette grâce, de cette consolation, mais aussi de ce salut qui nous est offert? On va fermer nos yeux. Et je voudrais inviter ceux qui souhaiteraient ce soir faire le pas de dire « Seigneur, viens habiter mon cœur ». Je voudrais vous dire que si on considère à juste titre notre cœur, nous savons qu'il n'est pas beau. Nous savons qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Et pourtant, le Seigneur, il dit « Je suis à la porte et je frappe ». Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je rentrerai et je souperai avec lui. Le Seigneur sait exactement dans quel état est votre cœur. Le Seigneur sait exactement quelle est la vie que vous avez menée jusque-là. Le Seigneur sait exactement quelles sont les choses que vous vous reprochez. Mais lui, il n'est pas venu pour vous faire de reproches. Il n'est pas en train de frapper à la porte de votre cœur pour vous accuser. Mais il frappe à la porte de votre cœur pour vous manifester son amour et vouloir aussi vous aider finalement à changer de vie, à changer d'existence. Vous avez le choix. Vous pouvez vous attacher à la beauté extérieure et oublier l'intérieur en vous disant « mais personne ne le voit ». Ou vous pouvez finalement réaliser que Dieu voit toutes choses et que l'essentiel n'est pas à l'extérieur. Mais c'est l'intérieur de votre cœur. C'est pour ça que le Seigneur, c'est ça qu'il vient chercher. Si quelqu'un ce soir voulait donner son cœur au Seigneur, je voudrais juste vous inviter à lever votre main et je prierai pour vous. Oui, amen. Oui, amen. Oui, amen. J'ai vu vos mains. Oui, amen. Béni sois-tu. Oui, Seigneur. Seigneur, tu as vu ces mains se lever, Seigneur. Toi qui connais toutes choses de nous, Seigneur, tu ne t'es pas laissé ni arrêter, ni refroidir, ni tu nous as rejetés, ni tu nous as, Seigneur, abandonnés. Mais tu es allé jusqu'au bout. Et à la croix, Seigneur, c'est nos péchés que tu as pris. C'est nos fautes, Seigneur, que tu as payées. Pour que finalement, Seigneur, nous puissions nous connaître une nouvelle vie en toi. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui ont levé leurs mains. Que ta grâce, Seigneur, puisse ce soir, dès cet instant, Seigneur, rentrer dans leur cœur. Que le Saint-Esprit puisse faire sa demeure dans ses cœurs, Seigneur. Et qu'ils puissent finalement, Seigneur, non seulement reconnaître que tu es leur sauveur, mais accepter que tu sois leur Seigneur. Merci, Seigneur, d'être ce Dieu de pardon, ce Dieu de grâce, mais aussi ce Dieu qui guérit. Seigneur, tu nous guéris de ce qui, finalement, est pour nous une souffrance, ce qui a peiné, ce qui peut-être nous a jusque-là accusés, méprisés. Seigneur, tu es venu pour changer l'état de notre vie. Et je te prie, change l'état de ces cœurs, Seigneur. Dès ce soir, Seigneur, que ta grâce, que ta paix, que ton amour se manifestent et que ta joie, Seigneur, métamorphose l'intérieur, mais aussi l'extérieur. À toi toute la gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.